des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
c'est Philippe de Chartres.
Qui est grand résistant, ancien ministre du général de Gaulle et doyen du Conseil économique et social.
Bonjour.
La première question que je voudrais vous poser, c'est que vous avez signé l'appel à la commémoration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la Résistance, qui avait été écrit le 15 mars 1944. Vous êtes un gaulliste de gauche, et vous êtes à côté notamment de communistes. Alors pourquoi signer un tel appel ?
Oui, plusieurs raisons. La première, c'est que j'y trouve, parmi les signataires, mes camarades de la guerre, bon, que j'ai beaucoup aimé, et qui m'ont aimé aussi, et avec lesquels nous avons fait ensemble beaucoup de choses. Krigel Valrimont, Léo Braque, Stéphane Hessel. Bon. Et j'ai trouvé que leur initiative et celle de M. Nikonov étaient utiles. Parce que, bien sûr, les conditions ne sont pas les mêmes. Hein. On n'est pas en 44. Le monde a changé, il va vers ailleurs, et il ne faut pas constamment avoir un regard en arrière, il faut avoir un regard en avant. Mais il se trouve qu'il y a des situations qui aujourd'hui rappellent les situations que nous avons vécues dans un autre contexte, bien sûr. Ce n'est pas identique, mais c'est semblable. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passait en 44? Les résistants, bon, ils avaient une idée en tête. Premièrement, c'était de chasser l'occupant du pays. C'était, quelle utopie, mais qui a réussi. C'était battre l'armée allemande, faire qu'elle sorte de France, libérer le territoire. Bon. C'était aussi tuer le nazisme. Bon. Qu'on ne connaisse plus cet enfer, cette horreur, il fallait éradiquer ce monstre. C'était quand même les deux grands piliers de notre comportement. Mais un tel effort, un tel risque, une telle volonté, et j'allais dire soutenu par un immense espoir, c'était pourquoi en définitive ? C'était que pour que les lendemains soient meilleurs que ce que nous avions connu. C'était pour que les forces que nous avions mises dans le combat, on les mette pour construire l'avenir. Non seulement pour reconstruire la France qui avait été mutilée, hein, mais pour reconstruire l'homme et pour lui donner sa vraie place dans la société. C'était ça, c'était un combat qui marquait bien que nous n'étions pas simplement des existentialistes du moment, mais des hommes qui agissaient pour construire l'avenir, et pour construire un avenir où l'homme serait plus libre et serait plus heureux, pour construire un monde nouveau. Alors, il y avait un certain nombre de points qui étaient bien précis dans le programme du Conseil national de la Résistance. En particulier, la liberté. Bon, la liberté absolue, n'est-ce pas, de conscience. Il y avait l'idée que l'État avait un rôle à jouer à côté de cette liberté absolue de conscience de l'individu. La société, n'est-ce pas, c'est pas un patchwork. Hein. Ce sont des sociétés et ce sont des individus qui, ensemble, construisent l'univers dans lequel ils vont vivre et faire vivre leurs enfants. Il y avait l'idée du service public. C'est important, ça. Dire que, quand même, une nation se doit de ne pas laisser au marché un certain nombre de moyens économiques essentiels. Il y avait cette idée, mais importante, qui était d'ailleurs une idée de Gaulle. Et je le cite presque dans les termes où, au cours d'une conversation, il me l'a dit lui-même. Il me dit, le progrès économique, bien sûr, c'est nécessaire à la vie d'une nation, c'est essentiel. Mais il ne faut jamais oublier que la seule finalité du progrès économique, c'est le progrès social. Eh bien, aujourd'hui, bon, dans des conditions moins dramatiques, d'aspect, d'apparence, enfin différentes dans tous les cas, fondamentalement, les mêmes problèmes se posent. Il s'agit, bien sûr, de construire un autre monde, mais dans lequel l'individu sera libre, mais en même temps l'État sera présent, de construire un monde où l'économie sera prospère, mais où le social ne sera jamais négligé, où le marché jouera son rôle et l'industrie sera libre, mais ce qui importe à l'État, au contrôle de l'État, restera sous le contrôle de l'État. Et c'est pourquoi un certain nombre d'hommes qui se sont engagés dans la résistance pour des raisons militaires d'abord, des raisons patriotiques ensuite, et pour des raisons de construction de l'avenir, retrouvent leur élan, retrouvent leur espoir pour dire « Attention, aujourd'hui les dangers sont les mêmes dans un contexte tout à fait différent, mais cela appelle aussi notre vigilance, notre action et notre prise de parole. » C'est le sens de ce papier que nous avons signé.
Et est-ce qu'on peut considérer que la situation actuelle est un espèce de détricotage systématique de tout ce qui avait été construit
Non, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Quand même, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais il y a un danger, il y a surtout un danger de détricotage, comme vous dites, n'est-ce pas? Bon, moi, je pense que, bien entendu, il faut construire l'Europe. Mais il faut que cette Europe soit une Europe sociale. Et ça, que ce ne soit pas une zone de libre-échange, de marché, où chacun fasse son beurre. Ce qui compte dans la construction de l'Europe, c'est que chaque citoyen soit plus libre et une vie plus heureuse. Donc, là encore, construire l'Europe, c'est construire l'Europe sociale. Car l'Europe économique, d'une façon ou d'une autre, elle se construira. Et elle peut se construire contre l'individu. Alors ce qu'il faut, c'est qu'elle se construise avec l'individu et pour l'individu, pour le citoyen.
Des souhaits des hommes, toujours en compagnie de Philippe de Chartres, donc qui est un grand résistant, ancien ministre de Gaulle. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot d'État, de rôle de l'État. Pourtant, moi qui suis un petit peu plus jeune que vous, ce que j'ai vu de la droite, de laquelle vous vous revendiquez, c'est justement plus souvent la volonté de donner un rôle, on pourrait presque dire, restreint à l'État.
Non, n'est-ce pas? Il ne faut pas être intégriste. L'engagement, s'il n'est pas contrôlé par la raison et par la réalité, peut conduire à l'intégrisme. Là, au moment de la résistance, nous avions la certitude qu'il fallait un État fort, un État organisé. D'ailleurs, c'est une constante dans l'histoire de France. Ça a commencé avec Philippe le Bel. Ça a culminé avec la Convention nationale, et avec l'Empire, et avec la République. L'État, comment se passer de l'État? Le citoyen, c'est Anatole France qui disait ça, le citoyen est en danger quand l'État est faible. Bien entendu, si on laisse la jungle prospérer, on risque de mauvaises rencontres. Il faut que l'État soit là pour à la fois animer, donner de l'élan et contrôler les appétits. L'organisation est absolument nécessaire. Bon, par exemple, dans tout bêtement au niveau du territoire, le rôle du préfet reste un rôle essentiel, hein, parce que il est l'argument de la cohésion de la nation. Il faut cela, n'est-ce pas ? À la fois sur le plan économique, sur le plan social, et puis sur le plan de la vie politique. Bon. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut le tout État. Pourquoi on en parle aujourd'hui avec crainte de l'État ? C'est parce qu'il y a eu des idéologies millénaristes qui étaient entièrement construites sur l'absolu de l'État, et donc qui ne faisaient pas la part de la vie, la part de l'improvisation, la part de l'espoir individuel, de la conquête individuelle du monde, qui compte aussi pour un homme, pour une société. Bon, c'est la chute du nazisme, c'est la chute du fascisme, c'est la chute du communisme, la chute des idéologies millénaristes construites uniquement sur la dictature de l'État, qui a fait que aujourd'hui un certain nombre d'hommes et de femmes ont pensé que il fallait laisser aller les choses. Eh bien, laisser aller les choses ou tout concentrer dans l'État, c'est la même erreur. Il faut un équilibre des deux. Il faut la spontanéité et il faut en même temps le contrôle et l'organisation.
Et justement, après le programme national de la résistance, après la période de la guerre, il y a eu la mise en place des plans, d'après ce que j'ai compris.
Mais oui, le général de Gaulle disait l'ardente obligation du plan. L'ardente obligation du plan. Bon, c'est lui qui avait dit il faut aussi que les banques soient contrôlées, que ce qui appartient dans le quotidien aux citoyens soit contrôlé par l'État et ne soit pas l'objet d'enchères. Hein. Les transports. Bon, avant la libération, les chemins de fer étaient divisés en sociétés. Bon, tout cela est devenu une seule société. Bon. L'électricité, pour que le tarif de l'électricité soit le même dans le village de Tartampion ou dans le 16e arrondissement. Bon, cela, il n'y a que l'État qui peut faire cela. Alors, sur ce plan-là, j'aurais pas peur de dire que je suis jacobin. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant laisser plus de place à la société civile organisée, de telle façon que dans les régions, il y ait quand même un élan personnel qui appelle à l'imagination, au travail individuel. Il faut les deux. Seulement, il est certain que les intégristes du marché, les intégristes de la société libérale chèvre ne valent pas de l'État parce que cela dérangerait leurs intérêts. Bon. Alors il faut encore une fois les deux, l'élan, l'espoir, l'imagination, mais le regard de l'État, le contrôle de l'État, l'intervention de l'État. Et ça va être d'ailleurs là la grande difficulté d'allier cette idée nécessaire sans laquelle il ne peut pas y avoir de liberté. Non. Et puis la mondialisation qui elle est un grand poulpe, n'est-ce pas, qui étend ses tentacules pour essayer justement d'être de laisser libre cours à toute aventure marchande. Hein. Les aventures marchandes sont bonnes, hein, à condition qu'elles soient regardées de près dans leur déroulement social.
Des sous et des hommes toujours en compagnie de Philippe de Chartres, qui décidément m'étonne absolument. La question peut-être un petit peu bête que je voudrais vous poser, c'est pourquoi finalement vous n'êtes pas de gauche ?
Oui, d'abord parce que je suis gaulliste, alors qu'il y a eu d'ailleurs des rencontres entre le gaullisme et la gauche. Mais je suis gaulliste, et je crois l'avoir dit tout à l'heure en ce qui concerne la place de l'État, par exemple. Et puis, je suis en même temps de gauche parce que je pense que le social doit toujours être le débouché de l'économique. Et je ne suis pas de gauche parce que les partis de gauche ne m'ont pas persuadé. Et d'abord, ils sont sectaires à l'intérieur d'eux-mêmes, ça se voit d'ailleurs dans leurs débats. Non. Tandis que moi, dans mon parti, des gaullistes, j'expose mes idées, je combats pour mes idées, pour la participation par ailleurs, avec des hommes et des femmes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, mais je mène une action positive à l'intérieur d'eux. Et je ne suis pas, entre guillemets, membre d'un parti de gauche parce que ils n'ont rien fait pour m'attirer, n'est-ce pas ? Le communisme qui m'a intéressé intellectuellement, parce que on ne peut pas évacuer le marxisme comme ça, en disant c'est du métafouillis, n'est-ce pas ? Bon, il faut réfléchir quand même à ce que Marx a apporté, bon, à l'organisation de la pensée politique. Mais le communisme m'a déçu parce que partout où il s'est installé, il n'a pas réussi. Bon, alors on va pas quand même rester dans un système qui va à l'échec. Bon, pour être plus simple, le jour où à la télévision j'ai vu Monsieur Jospin, pour lequel j'ai grande estime parce que c'est un homme de qualité, bon, dire devant les ouvriers de chez Lu, hein, dire, vous êtes délocalisé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qui puis-je ? Rien. Eh bien, je me suis dit, ceux qui ont... J'ai dit d'abord, M. Jospin ne sera jamais élu. Ça, mais je me suis dit, ces hommes et ces femmes n'ont pas élu un homme de gauche, bon, pour qu'il leur fasse cette réponse. Moi, je ne marche pas. Alors, je pense que la gauche au pouvoir, je suis pas suspect, j'ai fait voter Mitterrand. Et ça n'a pas été inutile pour le succès de Monsieur François Mitterrand. Bon, car je pensais qu'il fallait justement essayer une autre donne. Bon. Eh bien, je ne parle pas du règne de Monsieur Mitterrand pour lequel j'ai... Monsieur Mitterrand. Une très grande admiration, une très grande amitié. Mais les gouvernements socialistes n'ont pas tenu leur engagement. Bon, ils ont été élus par leurs camarades. Ils ont été acceptés démocratiquement par la société française. Mais ils n'ont pas changé grand-chose à l'ordre du monde, ne serait-ce qu'à l'ordre économique de la France. Voilà. Alors, comme il faut bien être dans un ensemble, moi je suis dans un ensemble où un certain nombre d'idées rattachées à l'histoire font que je me trouve à l'aise, hein, et en même temps où je peux défendre des idées qui ne sont pas attaquées avec un esprit sectaire, car j'ai là toute la possibilité dans mon parti d'exprimer les idées que j'exprime tout de suite et on ne m'exclut pas.
J'aurais une dernière petite question. Tout à l'heure, vous avez utilisé le mot d'Europe sociale. Vous pensez réellement qu'on peut en construire une Europe sociale ?
Alors, je pense qu'on doit avoir ça dans la tête constamment. Bon, c'est une priorité de fixation mentale. Hein. Bon, parce qu'autrement, on va à la catastrophe et les choses où deviendront une espèce de grand espace de libre-échange où ça se délitera. Bon, il faut penser à cela. Il faut penser non seulement en fonction d'idées négatives, mais en fonction d'idées positives, car il n'y a pas d'intérêt à construire un monde si le sort de l'individu dans ce monde n'est pas meilleur. Bon. Je pense que ça prendra beaucoup de temps. Vous savez, tout à l'heure, vous me posiez des questions. Est-ce que, depuis la libération, quand même, tout ça n'a pas été détricoté? Il faut être prudent. Moi, je suis né avec le début du XXe siècle, il y a 86 ans. La vie n'était pas rose. Bon. Que de progrès, quand même. Que de progrès, dans tous les domaines, non seulement dans le domaine scientifique, bon, dans le domaine médical, dans le domaine de la protection sociale. Bon, tout ça, ça a été très long, mais ça s'est fait. Bon. Alors, bien entendu, il y a des acquis à sauvegarder, il y en a à conquérir, ça prendra du temps, mais l'expérience de l'âge me permet de vous dire, madame, c'est la vie. Et si on est là, c'est bien pour essayer que ça marche. Alors, le grand secret de tout cela, c'est l'espoir. Il faut avoir l'espoir chevillé au corps et surtout beaucoup de vigilance pour ne jamais oublier que toute décision importe sur l'ensemble. C'est une vigilance permanente. Alors, ça sera difficile parce que ça aurait été plus facile avec une Europe à 5. Encore que c'est pas sûr avec l'Angleterre et l'Amérique. Mais ça sera très difficile avec la grande Europe. Mais il faut que cette grande Europe vive, et c'est par notre combat dans cette grande Europe que justement on pourra faire avancer le bonheur de chacun.
Bien donc, c'était Des Sous et des Hommes. On était en compagnie de Philippe de Chartres. Et la semaine prochaine, nous retrouverons un autre résistant, un autre signataire de l'appel à la commémoration du 60e anniversaire. Je vous remercie infiniment, monsieur de Chartres.
Merci.